Les colloques du Collège de France.
Alors oui, je vais faire une conférence sur le lien entre l'apprentissage, l'intelligence artificielle, machine et humain. Donc c'est vraiment un grand écart. Et faire un grand écart, c'est toujours un peu dangereux, surtout que je vais marcher sur les plates-bandes de beaucoup de mes collègues qui, j'espère, me l'excuseront. Mais en tout cas, ça vous donnera une perspective à partir de laquelle je suis sûr que beaucoup de collègues ne seront pas du tout d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je vais commencer par là. Essentiellement, ça veut dire apprendre à estimer la réponse à une question à partir de données. Donc, la particularité, c'est qu'on va apprendre, et apprendre, ça va se faire à partir d'exemples où on connaît la donnée et on connaît la réponse. Donc, qu'est-ce que ça peut être, la donnée? Par exemple, ça peut être de la parole et on peut demander de reconnaître les mots qui ont été prononcés. Ça peut être un texte où il s'agit de faire de la traduction, auquel cas Y, ça va être un nouveau texte qui a été traduit ou la réponse à une question. X, ça peut être une image et Y, demander le nom de la personne à l'intérieur de l'image. Ou X, ça peut être tout simplement la position des pièces sur un jeu de Go. Et la question, c'est quel est le prochain mouvement qui peut nous amener vers une victoire. Alors la particularité du domaine, c'est que X, c'est un très grand nombre de variables, typiquement de l'ordre d'un million pour une image, pour un texte, pour la parole. Donc bien souvent, c'est bien bien plus grand que 1000. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important et qui va structurer le problème. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que certes, il y a d'énormes différences avec l'apprentissage humain, mais il y a aussi beaucoup de points communs. Et pour essayer d'aborder le sujet, je vais commencer par vous définir ce que c'est que l'apprentissage en intelligence artificielle. Et puis, je vais prendre un point de vue mathématique, c'est d'essayer de comprendre mathématiquement quel est le problème. Et pour comprendre le problème, ce qu'on va voir, c'est que finalement, la correspondance avec la physique permet beaucoup d'éclairer les choses et de comprendre pourquoi ce problème est aussi difficile. Et ce point de vue, je le prends parce qu'une fois qu'on a compris la nature mathématique du problème, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a la possibilité d'aborder ce problème avec beaucoup d'angles différents, ou est-ce que finalement le problème est tellement contraint qu'il y a probablement une seule architecture de solution, auquel cas ça pourrait nous mener au fait qu'effectivement il y a une convergence entre les solutions adoptées par les machines et les solutions adoptées par le cerveau humain. Mais on va le regarder de façon un peu plus précise en regardant quelques données neurophysiologiques et en montrant qu'effectivement, on voit apparaître des convergences. Et je regarderai aussi les modèles de langage. Parce qu'évidemment, les modèles de langage, comme l'a dit Stan, c'est quelque chose qui a donné des résultats très spectaculaires et qui maintenant pose des questions assez profondes sur la linguistique et sur la notion même d'apprentissage. Alors, je finirai par l'enseignement. Et ça, c'est à nouveau le grand écart. Et en particulier sur l'enseignement des mathématiques qui a été abordé, la crise de l'enseignement des mathématiques, qui est, je pense, un problème très fondamental en ce moment, et d'une certaine manière qui est un peu lié à ce sujet. Je vais expliquer en quoi. Alors, l'intelligence en intelligence artificielle, l'apprentissage, pardon, en intelligence artificielle. En fait, si vous regardez les algorithmes, il y a beaucoup de similarités avec la façon dont un élève va apprendre en cours. Il y a au départ un cadre a priori qui est fixé. Alors dans un cours, ça va être typiquement l'enseignant qui va structurer l'apprentissage avec sa propre démarche pédagogique et des explications. Et puis ensuite, il va y avoir une phase pour l'élève d'apprentissage par essai-erreur en mathématiques, par exemple. Ça veut dire faire des exercices, se tromper, regarder la solution, un nouvel exercice, se tromper, regarder la solution et au fur et à mesure s'améliorer. Et puis à la fin, à la fin du cours, typiquement, il y a un test sur des nouveaux exercices pour essayer d'évaluer l'acquisition des connaissances de l'élève. La façon dont on fait de l'apprentissage en mathématiques ou en informatique suit essentiellement la même structure. Alors, apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut à nouveau essayer d'estimer la réponse, que je vais appeler à nouveau Y ici à la question, à partir des données qui sont X, donc ça veut dire associé à y à x, apprendre une fonction, ici f de x. Le cadre a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas aller chercher n'importe quelle fonction possible, on va la délimiter et on va aller chercher la relation entre x et y à partir de fonctions qui vont être indexées par des paramètres. Et donc l'apprentissage va être essentiellement autour de ces paramètres, c'est-à-dire qu'on fixe un monde qui n'est pas trop large dans lequel on va apprendre. Et ensuite, il y a l'apprentissage par essai-erreur. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fixez un paramètre, eh bien, vous allez faire une prédiction de Y, vous allez avoir une certaine erreur, et ce que vous voulez, c'est réduire votre erreur. Donc vous allez changer la configuration de l'algorithme, autrement dit, changer le paramètre, jusqu'à ce que l'erreur soit minimum, et lorsque vous aurez minimisé l'erreur, vous aurez fini votre phase d'apprentissage. Seulement ça, vous allez le faire sur des exemples d'entraînement qui vous ont été donnés et sur lesquels, évidemment, vous connaissez la réponse de façon à calculer l'erreur. Donc, il va y avoir une dernière phase. Et la dernière phase, ça va être d'essayer d'évaluer si votre système généralise, c'est-à-dire si, sur des nouveaux exemples, vous êtes effectivement capable d'avoir une erreur qui n'est pas plus grande que celle que vous aviez à l'entraînement. Et dans ce cas-là, on va dire que le système généralise. Vous voyez que vous avez essentiellement le même type d'approche dans ce cadre. Et maintenant, on peut se poser la question, pourquoi c'est aussi difficile d'apprendre? Et la réponse est liée à ce qu'on appelle la malédiction de la dimension. Alors, en apparence, le problème n'a pas l'air si difficile que ça. Ce qu'il faut, c'est simplement apprendre une fonction qui relie y à x. Et on a des exemples, c'est-à-dire on a des points sur lequel on connaît la valeur de la fonction. Donc ça, c'est tous les points colorés ici. Et maintenant, je vous donne une nouvelle donnée, donc je vous donne un nouveau x, et il faut connaître la valeur de la fonction dans ce x, pour cette valeur x. Donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire, c'est pas compliqué, je vais essayer d'aller chercher les voisins de x, et si ma fonction est un peu régulière, la réponse en x va être très similaire à celle des voisins, donc je vais faire une espèce de moyenne. Alors pourquoi est-ce que ça marche jamais? Ça marche jamais parce que la dimension des données, le nombre de variables, est très grand. Donc il y a une variabilité absolument considérable. Imaginez, si vous prenez une image, elle n'a aucune chance d'être presque égale à une des images que vous avez stockées dans votre base d'entraînement. Alors pour le vérifier mathématiquement, vous pouvez regarder dans quel espace vit votre x. Chacune des valeurs, disons, peut varier entre 0 et 1, donc ça va vivre dans un cube 0, 1 à la puissance d. Imaginez que vous vouliez garantir que vous avez un exemple qui est proche, par exemple à une distance 1 dixième, que votre x, pardon, est à une distance au plus 1 dixième d'un exemple. Combien d'exemples il faut? Si vous êtes en dimension 2, il vous en faudra 10 fois 10, c'est-à-dire 100. En dimension D, il vous en faut 10 à la puissance D, et si D est plus grand que 80, ce nombre est déjà plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc il n'y a aucune chance pour que vous ayez suffisamment d'exemples, d'autant plus que dans votre cas, D, ça ne va pas être 80, mais 1 million. Donc tout l'enjeu, ça va être de comprendre, dans cet espace qui est absolument énorme, avec une variabilité considérable, où se concentre l'information qui est utile pour répondre à la question. Et ça, c'est la difficulté principale de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que proposent les réseaux de neurones? L'idée d'un réseau de neurones, c'est que c'est basé sur une petite entité qu'on appelle un neurone mathématique ou informatique qui n'a pas grand-chose à voir avec un neurone biologique, sauf qu'il y a quelques petits points communs. L'idée est la suivante. Vous avez des entrées dans ce neurone. Et ces entrées vont être multipliées par des poids, qui sont ici les paramètres, et vous allez faire une combinaison pondérée par ces poids des entrées. Et si le résultat de cette moyenne pondérée est plus grand que le seuil B qui est indiqué ici, alors vous allez sortir la valeur. Si c'est plus petit, le neurone ne va pas répondre et la réponse va être zéro. D'accord ? Donc c'est une petite opération très élémentaire. Maintenant, la particularité des réseaux de neurones, et en particulier des réseaux de neurones profonds, c'est que vous allez mettre cette petite entité en réseau, c'est-à-dire vous avez ici les entrées et là les neurones de la première couche qui vont répondre, qui vont rentrer dans une série d'autres neurones avec leurs propres paramètres, et vous allez ainsi avoir un nombre absolument considérable de paramètres qui sont les poids de connexion de tous ces neurones jusqu'à ce que vous ayez votre sortie. Et typiquement, le nombre de paramètres au cours des 10 dernières années ont augmenté de millions à milliards jusqu'à trilliards pour les plus grands systèmes de langage. L'idée, c'est que maintenant, vous allez optimiser les paramètres. Donc là, on rentre dans la phase 2, c'est-à-dire je vais essayer de choisir les poids, autrement dit mon θ, de manière à ce que l'erreur soit la plus petite possible entre la réponse du réseau et la vraie réponse. D'accord ? Donc ça, ça va être l'apprentissage. La grosse surprise, c'est qu'avec des architectures qui sont très similaires, on arrive à répondre à une diversité de problèmes qui est absolument extraordinaire. La reconnaissance d'images, reconnaissance de sons, de paroles, des diagnostics, diagnostics médicaux, détection, faire du calcul scientifique, faire de la prédiction de valeurs comme par exemple l'énergie quantique de molécules, de la génération d'images, de musique, de données physiques, de la génération de textes comme dans ChatGPT, traduction, voire même des démonstrations mathématiques. Donc la question qui se pose, c'est comment ça se fait que ces architectures qui vont apprendre sur des données différentes dans chacun de ces problèmes sont capables de répondre à toute cette gamme de questions, alors même qu'on sait que le problème au départ est extraordinairement difficile, voire impossible à résoudre, sauf s'il y a de la structure cachée. Et ce que ça indique quelque part, c'est que finalement tous ces problèmes-là fondamentalement partagent le même type de structure, et c'est là qu'on aborde le problème d'un point de vue mathématique. Alors, ce problème, pour le rendre un peu intuitif, je vais le mettre dans le cadre de la physique. Pourquoi la physique ? Parce que le cœur de la physique statistique, c'est essentiellement étudier ce genre de problème. Quel est le problème en physique statistique ? Vous avez des interactions entre particules microscopiques et à partir de là, vous voulez expliquer des phénomènes macroscopiques comme la résistance de matériaux, les propriétés de fluides, de gaz, etc. Et donc c'est le même phénomène d'agrégation d'une quantité monstrueuse de paramètres jusqu'à obtenir une quantité qui agrège l'information. Alors en physique statistique, il y a évidemment des modèles simples, par exemple des gaz, et là on a des modèles mathématiques bien connus, et ça c'est les modèles qu'il y avait dès le début du XXe siècle, et puis on a bougé vers des modèles plus compliqués qui expliquaient les transitions de phase. Ça c'est un exemple, le ferromagnétisme. Donc par exemple la dernière médaille Field était autour de l'étude de ce genre de problème. Mais en maths on s'arrête là. Étape d'après, turbulence, ça c'est un problème qui a été posé en 1940 par Kolmogorov, on n'a toujours pas de description mathématique des statistiques de la turbulence. Ce genre de choses qu'un réseau de neurones est capable de synthétiser, c'est-à-dire un visage, un tableau qui a gagné un prix d'art aux États-Unis, on est complètement hors du cadre des mathématiques qu'on est capable de connaître. Qu'on est capable non pas de connaître, mais qu'on est capable de faire actuellement. Et donc l'enjeu, c'est d'essayer d'avancer petit à petit pour comprendre ce genre de phénomène. Là, la première réaction, c'est de se dire « Ah, c'est pas si compliqué que ça. » Finalement, les réseaux de neurones, ce qu'ils font, c'est mémoriser. Ils ont énormément de données, puis ils reproduisent des patches. La réponse est non. Beaucoup d'études là-dessus, les réseaux de neurones généralisent, et ce genre d'images ne sont pas le résultat de patches d'une assemblée d'éléments dans un système d'apprentissage. Donc la question qui va nous ramener au problème, c'est comment est-ce que les réseaux de neurones sont capables d'éviter cette malédiction de la dimensionnalité et d'extraire l'information qu'il y a dans ces données de très grande dimension. Alors, il y a une idée clé en physique et en maths qui est le fait que dans beaucoup de systèmes, vous êtes capable de réduire la dimension du problème, autrement dit le nombre de variables, en regardant le phénomène à différentes échelles. Donc, imaginez des variables qui peuvent être les pixels d'une image. Ça peut être des agents dans un réseau social, ça peut être des particules en physique. Et vous le regardez, les interactions entre ces deux variables et celles du centre. Donc vous pouvez regarder chaque interaction, tout comme on peut regarder les interactions entre tous les humains sur Terre. Mais évidemment, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on peut réduire ça ? Déjà, il y a des interactions avec les particules très proches. Dans votre cas, ce serait votre famille, par exemple. Et puis ensuite, les particules plus éloignées, on peut résumer leur interaction sur celle-là en regardant le champ équivalent produit par le petit groupe de particules. Et les particules qui sont encore plus éloignées, eh bien, on peut les regrouper dans des groupes encore plus grands et regarder leur influence, par exemple, l'influence de la politique entre, je ne sais pas, le Moyen-Orient ou la Chine et l'Inde sur votre propre vie. Et donc, vous avez un regroupement beaucoup plus important. Le résultat de ça, c'est que pour comprendre ce système, au lieu d'avoir des interactions, vous n'en avez plus que log D, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup moins, et vous tuez la malédiction de la dimensionnalité. Mais le problème, c'est que maintenant, vous avez à comprendre les interactions entre toutes ces structures à travers les échelles. C'est là que va se cacher l'essentiel de la physique, et c'est là que va se cacher une grosse partie des problèmes. Donc le problème, c'est de caractériser ça. Je vais montrer le lien avec la physique et avec les réseaux de neurones. Alors, j'ai commencé avec la physique. Qu'est-ce que ça veut dire, ces interactions multi-échelles ? Donc ça, c'est, il faut réaliser qu'en physique, être capable de modéliser un phénomène comme ça, c'est-à-dire être capable de calculer sa probabilité, c'est la même chose que calculer son énergie. Parce qu'un phénomène qui va avoir une basse énergie va correspondre à une grande probabilité. D'accord ? Donc c'est l'énergie qui spécifie la physique et qui va spécifier ceci. Qu'est-ce qu'on a fait en physique depuis les années 70 ? On a regardé ces phénomènes à différentes échelles, et ça, c'est des travaux superbes, notamment de Wilson, qui ont mené à la compréhension des transitions de phase, et on s'est rendu compte que l'évolution de ces distributions de probabilité des énergies était très régulière. Maintenant, la question qui va se poser d'un point de vue apprentissage, c'est plutôt comment on apprend tout ça. Et comment on apprend tout ça ? Eh bien, essentiellement, on va dans le sens inverse, c'est-à-dire on part de là, de la petite dimension, et on a besoin de bouger pour comprendre les structures de la grande image. Et pour ça, il faut ajouter des détails qui permettent d'augmenter les résolutions. Et ces détails, on les calcule avec des petites ondes qu'on appelle des ondelettes. Donc là, on a l'impression qu'on n'a rien à voir avec notre sujet d'origine, mais je vais vous expliquer pourquoi oui. Quand vous regardez un réseau de neurones et sa structure, on voit le même genre de phénomène. Ça, c'est l'entrée du réseau et puis les différentes couches. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'à travers les couches, les données deviennent de plus en plus petites. En fait, on agrège petit à petit les informations à travers les échelles. Et quand on regarde les premiers filtres qui apparaissent dans les réseaux de neurones, ce sont essentiellement les mêmes ondelettes que celles qu'on voit apparaître, qui sont utilisées en maths et en physique. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que l'homme ou les animaux font quelque chose de similaire ? Si on regarde le système visuel, vous avez eu beaucoup d'études à partir des années 60 et notamment des travaux pionniers de Hubel et Wiesel, des propriétés des cellules corticales, notamment dans la zone V1 qui est ici, et ils se sont aperçus qu'il y avait un certain nombre de neurones qui avaient des réponses quasi linéaires. Ils ont essayé d'identifier, et ça c'est l'extrait d'une publication de neurophysiologie, et qu'est-ce qu'ils ont vu apparaître ? Des espèces de petites ondelettes qui ont différentes orientations, comme dans les modèles de réseaux de neurones, et qui existent ici. Ça, c'est un modèle de cerveau de macaque. La grosse difficulté, c'est que quand on avance vers d'autres zones visuelles comme V2, les gens ont été confrontés à des cellules beaucoup plus compliquées, très non linéaires, dont on n'arrivait pas à interpréter les performances. Et puis, d'autres personnes, plus récemment, et il y a beaucoup de groupes qui font ce genre d'études maintenant, là j'ai pris les publications de Di Carlo au MIT, ont repris ces réseaux de neurones et les réponses des cellules corticales dans tout ce qu'on appelle le chemin ventral, qui est le chemin où petit à petit on va identifier le type de structure, le type d'objet dans l'image. Ils ont observé que les différentes couches des réseaux donnent des modèles des populations de neurones. Je ne parle pas des réponses des neurones individuels. Et donc il y a une forme de correspondance entre ce chemin dans le cerveau et le chemin qui va de plus en plus profond dans les réseaux de neurones. Alors, je voudrais maintenant regarder un autre aspect qui nous touche en tant qu'humains, c'est la linguistique. Dans le cas de linguistique, le cas de la linguistique, on a vu depuis un peu plus d'un an, deux ans, ces modèles de langage qui obtiennent des résultats très spectaculaires, qui sont capables de répondre à des questions, qui sont capables de faire des démonstrations mathématiques. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans ces modèles, il n'y a absolument aucune information de grammaire, de logique, etc. La seule façon dont ces réseaux sont entraînés, c'est qu'on donne des parties de la phrase avec des trous et on demande de prédire, donc le Y, c'est quel est le mot manquant, sachant qu'on vous donne le X, qui sont les mots qui sont dans le voisinage. Donc c'est essentiellement de la prédiction, autrement dit un calcul de probabilité de la réponse Y, sachant X, sachant les mots qui sont environnants. C'est essentiellement ça qui est fait, avec des spécificités d'architecture. Il y a ce qu'on appelle des transformers qui permettent d'avoir des dépendances qui sont très longue portée. Et surtout, vous avez des réseaux qui sont de très, très grande taille. GPT-4, c'est de l'ordre de 1 trilliard de paramètres. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'enseignement final, c'est-à-dire de façon à s'assurer que le réseau ne va pas avoir un langage toxique, raciste, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on pose des questions au réseau, qui répond, et il y a des gens qui font une annotation et qui disent non, ça c'est pas bien, et il y a un réentraînement là-dessus. Donc c'est un peu comme une forme d'éducation finale, sachant que déjà le réseau sait parler au moment où on fait ce dernier entraînement. Donc j'insiste sur le fait que pas de logique, pas de causalité. Essentiellement, on est sur un modèle qui est très proche du modèle de Wittgenstein, c'est-à-dire que la sémantique émergente, c'est la sémantique de l'usage. Ce qu'il disait, c'est par exemple, vous prenez le mot football, qu'est-ce que c'est que le football ? On pourrait le définir comme étant le sport qui satisfait toutes les règles de l'Association internationale de football. Si vous prenez des gamins qui jouent sur la plage, ils ne respectent pas ces règles, et pourtant c'est du football. Donc la diversité des choses fait que, essentiellement, c'est l'usage qui va définir le problème. Alors il y a une vieille question fondamentale, c'est, on sait tous, c'est la grammaire qui, d'une certaine manière, dans le langage, semble différencier l'homme des animaux. Et une des questions qu'on s'est toujours posée, c'est pourquoi ? Comment ça se fait ? Les réseaux de neurones donnent un point de vue là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ? Ce qu'on voit, c'est que dans le cas d'un réseau de neurones, ça dépend de la taille de la mémoire. Quand la taille de la mémoire d'apprentissage est trop petite, le réseau n'est pas capable d'apprendre, en particulier si vous avez des réseaux qui sont capables d'interpréter des images de l'audition, ils ne sont pas pour autant capables d'apprendre, notamment la grammaire, parce qu'il faut une quantité de mémoire qui est beaucoup plus importante. Autrement dit, pas de circuit dédié à la grammaire, mais plutôt un élément émergent qui serait une fonction de la capacité mémoire. C'est une question si c'est le cas dans le cas de l'humain, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit apparaître dans le cas des réseaux de neurones. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on voit derrière, c'est aussi une forme de remise en question des modèles existants de linguistique, et notamment ceux qui sont fortement basés sur des principes de grammaire comme étant au cœur de l'acquisition du langage. Ici, la grammaire n'a pas de rôle central dans l'apprentissage. On n'impose pas la grammaire essentiellement, mais c'est une propriété émergente. C'est une propriété émergente parce que si vous avez des données qui satisfont la grammaire, ça veut dire qu'elles ne vont pas se distribuer n'importe où dans l'espace. Il y a une forme de régularité et cette forme de régularité est apprise par le réseau. Alors, ce qui est surprenant, c'est la capacité de démonstration mathématique de ces réseaux, sans logique, seulement à partir des probabilités conditionnelles. Alors, si vous essayez, vous allez voir, il y a très souvent des erreurs, en particulier sur ChatGPT. Seulement, actuellement, il y a des réseaux beaucoup plus performants en mathématiques qui sont entraînés, avec un apprentissage par renforcement, où la preuve est vérifiée par des systèmes de informatique formelle, ce qui fait que ces systèmes font de moins en moins d'erreurs, et certains de ces systèmes arrivent à un niveau de mathématiques qui est proche de celui d'un bon étudiant d'université, et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer de plus en plus. Alors à nouveau, ça dépend, suivant le type de problème, et il y a des types de problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre pour un système comme ça, mais les performances sont tout à fait spectaculaires. En même temps, ces réseaux sont extraordinairement inefficaces. Un des éléments, c'est le fait qu'ils sont constamment réentraînés. Autrement dit, il n'y a pas d'inné dans la plupart de ces réseaux, contrairement aux bébés. Je suis sûr que Anne-Christophe nous expliquera à quel point les bébés sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces que ce genre de système. Mais il y a des tas de gens, il y a essentiellement des milliards de dollars qui sont en ce moment investis dans ce domaine parce que ce sont des points clés pour des sociétés comme Google, Facebook, pour leur propre survie. Et donc, tous ces problèmes sont actuellement au centre de beaucoup de recherches. Améliorable avec de la causalité et de la logique, probablement, mais ça reste une question ouverte. Alors, je voudrais faire maintenant, pour terminer, le lien avec l'apprentissage. Un des éléments que ceci nous indique, c'est que, en tout cas pour les machines, si vous voulez apprendre des langues, ce n'est pas la peine d'apprendre des listes de vocabulaire, du grammaire. Ce qui compte, c'est le contexte, et donc c'est l'immersion. Et finalement, on a un peu vu le résultat de ce genre d'enseignement très formel en France dans les années 50, 60, 70, où personne n'était capable de parler l'anglais. L'immersion, ça fait du sens aussi pour les humains, en tout cas pour les bébés. Alors, je voudrais finir sur la crise des maths. La crise des maths, ça a été évoqué avec ce rapport sur l'OCDE. La France fait partie actuellement des derniers pays de l'OCDE sur toute une gamme d'âge, depuis le primaire jusqu'à la fin du secondaire. Et en échange, on est en tête du stress des maths chez les adolescents. Alors, c'est moyennement satisfaisant. Et la conséquence de ça, c'est que le jour où les maths ont été mises optionnelles, ce qui a été une catastrophe, mais après tout, on a laissé choisir les ados, et bien à ce moment-là, ils ont tous déserté les maths, et il y a eu une baisse absolument considérable, de l'ordre de 50% du nombre d'élèves qui font, voire 60% plus de 6 heures de maths en terminale, encore beaucoup moins de filles, et les explications, c'est manque de motivation, difficulté de se projeter dans le futur à partir des mathématiques, la peur de ne rien comprendre, et on peut se demander pourquoi on est dans cette situation en France en mathématiques. Alors il y a des tas de raisons, d'accord ? Il y a des tas de raisons explicatives, mais il y en a une qui est quand même importante. D'ailleurs, je pense que la communauté mathématique a une responsabilité et ce n'est pas simplement un problème de moyens. On a l'héritage d'un enseignement mathématique qui est très formel et abstrait. Cet héritage, il vient essentiellement des mathématiques modernes qui ont été enseignées entre les années 65 et 85, qui sont issues de la refondation des mathématiques par ce groupe Bourbaki, qui était un résultat fascinant d'un point de vue mathématique, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire une approche des mathématiques purement par l'axiomatique, c'est-à-dire par le formel, et en particulier totalement déconnectée du reste du monde, c'est-à-dire les mathématiques comme un langage formel, autonome, et ça, c'est très difficile à aborder quand vous-même, vous ne passez pas des heures et des heures pour faire des maths, pour vous construire une intuition. Et c'est notamment une rupture par rapport à la pratique des mathématiques jusqu'au milieu du XXe siècle. Si vous regardez en particulier, XVIIIe, tous les mathématiciens étaient aussi physiciens, philosophes, y compris jusqu'au XXe siècle. Vous prenez l'exemple de Poincaré. Et cet enrichissement était là, permanent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je voudrais finir sur un mot sur ce programme Agir pour l'éducation. Je pense que on peut faire des choses, mais il faut rétablir ce lien entre les mathématiques et les questions posées par le monde. Autrement dit, rétablir ce lien qui passe de l'expérimentation à l'abstraction, de l'abstraction aux mathématiques, et qui revient parce que non seulement ça permet de mieux comprendre les mathématiques, mais c'est ça aussi qui donne toute la beauté de la généricité des mathématiques. Quand vous voyez apparaître la notion de droite sur des problèmes qui sont complètement différents, et vous voyez apparaître ce concept comme étant un concept totalement central, c'est là qu'on comprend la puissance des maths, et non pas quand on l'étudie purement en isolation sur un système autoréférent. Alors, ça, c'est une observation qui est bien connue dans le monde de l'éducation, notamment dans le primaire, avec la méthode de Singapour, qui a fait énormément, qui a une performance assez remarquable et qui est beaucoup adoptée, c'est-à-dire adopter cette démarche d'expérimentation, d'abstraction pour arriver à une formalisation mathématique. Toute la question ici que je vais poser, c'est comment le faire au lycée. Parce que c'est facile à faire au primaire, parce que les manipulations de nombres sont des choses assez faciles. Au lycée, vous avez des ados et il faut poser des vraies questions qui peuvent les interpeller. Si vous essayez de faire ça en lien avec la physique, il faut leur enseigner la physique avant et c'est très compliqué. Et donc la question, c'est quoi le cadre qu'on peut leur donner ? Et je pense qu'il y a actuellement une superbe opportunité avec ce qui se passe notamment avec ces éléments d'intelligence artificielle et les challenges de données. Donc qu'est-ce que c'est qu'un challenge de données ? Je reviens au problème. C'est poser une question à partir de données dans n'importe quel cadre. Ça peut être une question de diagnostic médical, ça peut être une question de prédiction climatique, ça peut être reconnaissance d'image, etc. Et on a une plateforme de challenge qui a de l'ordre de 70 challenges qui sont apportés par des services publics, des industries et des laboratoires de recherche avec actuellement plutôt des étudiants universitaires, j'expliquerai, de l'ordre de 15 000 participants. Donc ça, c'est des exemples de présentation. Vous avez là un chercheur qui explique le problème. C'est reconnaître les différents types de champs de baleines. Là, vous avez un autre exemple, c'est la prédiction d'énergie éolienne. Un troisième exemple ici, c'est reconnaître le chiffre dans des images. Ça, c'est important pour automatiquement définir, reconnaître les codes postaux. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? Et ça, c'est toute une équipe qui est entre l'École normale supérieure et le Collège de France. C'est essentiellement de faire émerger les maths à partir des questions qui sont posées par ces challenges et surtout à partir de l'expérimentation que les enfants peuvent faire numériquement, informatiquement sur les exemples. Ce qu'on fait, c'est qu'ils essayent des solutions, ils les postent, ils ont des résultats. Ils veulent faire mieux et là, les maths sont indispensables et ils voient émerger les mêmes outils mathématiques à partir de problèmes très différents. Et l'enjeu, évidemment, c'est d'enseigner les maths au programme et c'est ce qu'on fait, donc aussi bien de géométrie, statistique, probabilité, analyse de fonctions. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille. C'est un travail qui est fait en co-développement avec l'Éducation nationale et je dois ici rendre hommage à tous les gens que j'ai rencontrés à l'Éducation nationale en maths. Ils sont tous extrêmement concernés par ce genre de problème et très ouverts aux innovations et sont vraiment à la recherche de façons d'aborder ces problèmes. La grosse difficulté, c'est évidemment s'adapter à deux niveaux. D'abord aux professeurs qui doivent adopter ces outils et notamment informatiques. Alors, tout le travail, c'est de simplifier les choses, mais aussi à toute la diversité que peuvent avoir les élèves. Donc, dans ce genre d'approche, il y a un côté ludique, c'est-à-dire l'expérimentation est ludique, ça se fait en groupe, il y a des petites compétitions, et ensuite on passe aux maths, et au moment où on passe aux maths, eh bien, on a construit sa propre intuition. En tout cas, c'est tout l'objet de ce programme, où il y a eu des expériences pilotes. Évidemment, l'enjeu, et je vais terminer là-dessus, c'est le passage à l'échelle. Il y a énormément d'expérimentations avec de bonnes idées en éducation. Il y en a très peu qui passent le passage à l'échelle. Et donc, le type de modèle qu'on propose et sur lequel on travaille, on verra si ça marche ou ça se casse la figure, sachant que dans ce genre de choses, c'est comme une start-up. La probabilité pour que ça se plante est importante, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. C'est un modèle d'éditeur de contenu. C'est-à-dire que il n'est pas envisageable qu'un petit groupe de 5, 10, 15 personnes éclairées soit en train de proposer à tous les professeurs le contenu de leurs cours, etc. C'est quelque chose qui doit être partagé. On propose des formats, il y a des formations, et ensuite, ce sont les professeurs qui doivent produire le contenu avec des encadrements et des évaluations par les pairs. Et donc, on essaye de faire ça avec une plateforme web. En tout cas, voilà le plan. Alors, je voudrais conclure. D'abord par le fait qu'on entend beaucoup le fait que tous ces algorithmes, ça n'a rien à voir avec notre apprentissage, etc. Oui, les performances sont très différentes, mais on observe une forme de convergence entre les algorithmes d'apprentissage et le type d'apprentissage qu'on a pour les humains. Et une des raisons potentielles, c'est le fait qu'on fait face au même problème. Ce problème a de la structure, parce que s'il n'en avait pas, on ne serait pas capable d'apprendre. Malédiction de la dimensionnalité. Il faut identifier la structure. Et donc, finalement, ce n'est pas si surprenant que des méthodes qui deviennent très efficaces convergent vers le même type d'architecture, surtout quand on voit le type de principes structurants qui sont derrière. Alors, je voudrais juste finir sur le fait qu'on dit, oui, les algorithmes d'apprentissage, ils ne sont pas si bons, etc. En tout cas, il y a une chose qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables d'apprendre de leurs erreurs. D'ailleurs, ils sont faits que pour ça. Et ce n'est pas toujours le cas des humains. Donc là, il y a peut-être des choses à apprendre pour les humains par rapport aux machines. En tout cas, je m'arrête là. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.